Alors, je pense que ça va assez bien s'articuler. Enfin, tu me diras si tu as cette impression. puisque j'essaye de répondre, enfin, de donner une extension à cette idée de, qui effectivement peut s'enraciner à la fois chez Russell Hardin, reprise par Gambetta, etc. C'est-à-dire que on va avoir une notion de confiance qu'on peut essayer de rationaliser. Si on est dans une situation de coopération en incertitude. Donc là, c'était... mais je vais ajouter une dimension affective à cette... ce qui pourrait être là purement cognitif, c'est-à-dire incertitude au lieu de risque, et pragmatique, c'est-à-dire coopération. Alors, coopération, je l'entends vraiment au sens théorie des jeux, c'est-à-dire une coordination qui est sujette à des exploitations. C'est-à-dire que si un certain nombre de personnes coopèrent, le bien public est assuré. Par exemple, si vous avez des bus qui sont financés par la municipalité et qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas droit à utiliser ce bus et qui en fait l'utilisent. Et comme ils ne payent pas d'impôts, évidemment, si ces bus sont utilisés uniquement par ceux qui ne payent pas d'impôts, ou au contraire, si les citoyens de la ville utilisent les bus mais ne payent pas leurs impôts locaux, évidemment, le système ne va pas fonctionner très longtemps. Mais vous avez intérêt, si vous êtes peu nombreux à le faire, évidemment, ceux qui ne payent pas leurs impôts locaux et qui quand même utilisent les bus, ils gagnent. Donc c'est toutes les situations de dilemme des biens publics. La situation de dilemme des biens publics la plus connue, c'est celle des États-Unis qui refusent de participer à la, aux mesures éventuelles sur la diminution du CO2. Et ils le font de manière totalement rationnelle en théorie des jeux, c'est-à-dire qu'ils pensent que puisque c'est une coopération du genre dilemme des biens publics, la stratégie rationnelle, c'est de ne pas coopérer. Parce qu'il suffit qu'il y en ait d'autres qui ne coopèrent pas suffisamment pour que tout se casse la figure et donc cette coopération soit totalement inutile. Leur argument étant que si l'Inde et la Chine ne coopèrent pas, ce n'est pas la peine qu'eux coopèrent. Ça ne sert à rien. La confiance, en revanche, c'est quelque chose qui se déclenche dans des situations, me semble-t-il, de coopération qui sont forcément en incertitude puisque... Il n'y a pas, vous ne pouvez pas mettre une probabilité sur le fait que les autres vont coopérer. Étant donné que si vous faites la théorie de l'affaire, vous voyez que ça ne marche pas si on est certain que les autres coopèrent. Hein, ou si la probabilité que les autres coopèrent est suffisamment élevée. Parce qu'à ce moment-là, vous avez intérêt à ne pas coopérer. Étant donné que le bienfait du bien public est assuré en probabilité, et que vous, du coup, votre intérêt, c'est de ne pas payer vos impôts et de monter dans le bus. Donc il faut qu'il y ait de l'incertitude pour que la coopération fonctionne. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne, ça semble un peu un mystère. Alors, l'idée, c'est de lier confiance et recherche de la reconnaissance sociale. Au fond, je ne fais pas une théorie de la reconnaissance à Axel Honneth. Hein. Je vais considérer, ou si vous préférez, je vais considérer juste le troisième type de reconnaissance, puisque lui distingue l'amour, le respect, puis justement la reconnaissance sociale. Donc je vais m'intéresser essentiellement à ce troisième type, mais je pense que ça peut permettre de récupérer les autres. Alors, comment est-ce que j'aborde la reconnaissance sociale? Par ses conditions de manifestation, et non pas par son essence. Je ne suppose pas qu'il y a des choses à reconnaître par essence, des valeurs à reconnaître par essence. Je suppose qu'il faut certains processus de manifestation et qu'à ce moment-là, il y a reconnaissance. Et donc, mon idée, c'est qu'en gros, il faut faire des sacrifices pour être reconnu socialement. Alors, c'est une idée que j'emprunte à Laurent Thévenot, puisque vous vous souvenez que dans le livre sur la justification, Boltanski et Thévenot distinguaient le rôle des grands et puis le rôle des petits dans une cité. Et les grands sont obligés de faire des sacrifices parce qu'ils représentent la valeur de la cité. Voilà. Ça peut être aussi bien le profit d'ailleurs pour la cité marchande que l'honneur pour les citer de l'opinion, etc. En revanche, les petits, ils n'ont pas à faire tant de sacrifices. On ne leur demande pas de veiller et de travailler sans arrêt pour amasser, pour faire plus de profit. C'est pas leur... Il n'y a pas cette exigence. Alors, partant de ça, évidemment, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on sacrifie? Vous avez affaire à une sorte de guerre de manifestation des valeurs, et chacun va éventuellement appeler intérêt ce qui n'est pas sa valeur, et ce qu'il sacrifie. Alors, est-ce qu'il y a des moyens? Donc, les intérêts, c'est les valeurs qu'on sacrifie, et les valeurs, c'est ce pour quoi on sacrifie. Ça semble un peu circulaire. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de distinguer les intérêts et les valeurs? Alors, dans une société donnée, je pense que oui. C'est-à-dire que les intérêts, ça serait ce que, normalement, on doit pouvoir satisfaire. C'est-à-dire l'individu, le socius de base doit pouvoir satisfaire sa survie, sa nourriture, d'avoir une compagne, un logement, etc. Enfin, ça dépend des sociétés. Les formes que ça prend sont assez variées. Et surtout, cet intérêt ne va pas être réévalué dans une dynamique quelconque. C'est-à-dire ça va être toujours considéré comme l'intérêt de base. Alors, c'est le cas aussi, vous voyez, pas forcément pour le taux de profit, parce que ça, si vous demandez 15% de rentabilité de votre capital, on voit bien, c'est ce qu'on demande, de temps en temps, on voit bien qu'économiquement, c'est pas viable à long terme. Mais en revanche, le fait qu'on puisse avoir au moins récupéré l'inflation, c'est ce que nous demandons tous. Donc là, nous avons l'intérêt au sens strict, d'ailleurs, qui est assez communément défini, supposé à quelque chose que tout le monde peut atteindre dans une société donnée. Alors c'est ça qu'on peut sacrifier, parce que ça, c'est reconnaissable par tout le monde. Et vous sacrifiez une partie de ces intérêts. Alors évidemment, il faut que ça soit cohérent sémantiquement et pragmatiquement avec la valeur. Alors par exemple, j'ai mis solidarité, fidélité. Récemment, là, on refaisait passer un bout de film sur l'abbé Pierre où il intervenait à propos du sida. Et il disait, attention, le préservatif, c'est pas fiable, c'est perméable, donc c'est la fidélité qui est bien mieux. Alors, c'était assez curieux parce que ça, c'est vraiment pas justement la manière de réaliser la fidélité comme valeur. On vous dit que la fidélité, instrumentalement, c'est quand même préférable à la perméabilité du préservatif. Alors, statistiquement, malheureusement, la fidélité est beaucoup plus perméable que le préservatif. La fidélité, ça demande des sacrifices sur, ne serait-ce que évolutionnairement, limiter l'extension de votre capital génétique. C'est lamentable, la fidélité, de ce côté-là. La solidarité, ça demande que vous sacrifiez un peu de profit pour ne pas trop licencier votre personnel, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous aurez une valeur, vous aurez des sacrifices connexes, des sacrifices d'intérêt. Sacrifier des intérêts pour une valeur, c'est un inducteur de confiance, à mon sens, c'est-à-dire que vous reconnaissez que telle personne a réellement, ou du moins la rumeur le dit, évidemment la fiabilité des informations là qui est en jeu, a montré par le passé qu'elle était capable de faire des sacrifices pour cette valeur. Donc probablement, il y a un effet de réputation, là, au fond on rentre dans la théorie de Krebs, qui est que vous vous êtes fait une réputation de sacrifice pour cette valeur. À ce moment-là, eh bien, c'est un des indices nécessaires pour déclencher la confiance. Alors, la confiance, vous voyez, je n'en fais pas quelque chose de très... ça peut être spontané, bien sûr. Mais vous voyez que ce qui va engager la confiance, c'est plutôt une sorte de double défiance. C'est-à-dire, je suis défiant parce que je suis en situation d'incertitude, mais je me défie de ma défiance parce que je sais qu'elle me ferait perdre des possibilités de coopération et des possibilités de reconnaissance par autrui. Alors, quels sont les on peut faire des différences de niveau de reconnaissance. Et il faut partir de ce que j'appelle ici, vocabulaire théologique encore, hein, une élection, hein, mais aussi politique, bien sûr. Voilà, la théologie politique fonctionne à plein. Donc, qui est que le premier niveau, alors c'est le niveau de base. Hein, je ne sais pas, par exemple, je sais que dans le coin où j'ai un chalet, il y a quelques paysans, il y en a trois en fait, qui considèrent qu'ils sont vraiment méprisés par tout le monde. Enfin, ils se sentent complètement en marge. Mais en même temps, ils savent qu'ils considèrent qu'ils font un certain nombre de sacrifices, qui sont de rester au pays, d'avoir une vie saine, pas comme à la ville, de devoir rien à personne, etc. etc. Donc, ça peut être des sacrifices, en fait, qui ont été relativement pas vraiment choisis. Il y a une part de choix, bien sûr, vous n'avez pas tenté de faire autre chose. Mais vous les partagez. Et donc, même si, en fait, ces paysans, se détestent par ailleurs pour des raisons familiales très, très lointaines, hein, ils ont ce sentiment de communauté, hein, et de partager des sacrifices, et celui qui ne les partagerait pas est très vite exclu. C'est-à-dire celui qui, d'ailleurs, va essayer d'utiliser, par exemple, des subventions européennes pour en faisant un petit trafic qui est classique dans le coin, c'est-à-dire à un moment il y avait du fluor dans la vallée, donc un tas de moutons crevaient forcément à cause du fluor. Et les gens qui développaient ça vraiment systématiquement, donc qui au fond faisaient plus de profit que les autres, étaient plus ou moins exclus de la reconnaissance partagée. Parce qu'il ne restait pas à ce niveau de sacrifice qui est lié aux valeurs du partage. Alors, vous avez évidemment ensuite un deuxième niveau qui est que, en fonction de votre sacrifice, là, vous êtes élu. Donc, c'est plus que vous n'êtes pas exclu, c'est que vous êtes élu. On choisit pour une certaine fonction, mais c'est vous qui l'avez demandé. Donc, alors, vous voyez, c'est les pauvres étudiants que j'essaye de préparer au concours de l'agrégation, ils sont dans ce cas. C'est-à-dire que si ça marche, c'est qu'ils auront été élus en fonction de leurs sacrifices, qui sont de plus en plus effroyables, d'ailleurs. Être élu sans l'avoir demandé, alors là, c'est mieux. Hein, bien sûr, tout ça doit se reposer sur des sacrifices. Hein. Si on découvre que vous avez été élu, mais qu'en fait, vous n'avez jamais fait aucun sacrifice, et vous ne ferez aucun sacrifice dans votre fonction pour mieux la remplir, bah, la confiance, effectivement, va diminuer, et la reconnaissance aussi. Et finalement, il y a ceux qui ont même le choix, qui élisent ceux qui les élisent. C'est-à-dire qui choisissent ceux qui les choisissent. Alors là, c'est le top du top. Bon, happy few qui peuvent faire ça. Mais vous verrez qu'en fait, il y a des groupes dans lesquels on peut obtenir ce type de reconnaissance sans être au sommet de la hiérarchie. Alors, la reconnaissance, je la prends aussi dans la dynamique temporelle qui est affective. Et la chose très importante et qui diffère alors vraiment de la théorie du choix rationnel, c'est-à-dire que la théorie du choix rationnel n'arrive pas à rendre compte de ça pour le moment. Je ne vois pas pourquoi elle ne rendrait pas compte un jour, hein, mais il faut qu'elle change son axiomatique. C'est que, au lieu de. Vous voyez, la théorie du choix rationnel, vous avez votre liste de préférences, et puis en fonction de cette liste de préférences qui est donnée d'avance, vous évaluez les différentes étapes des choix de vie, etc. Et là, on voit qu'en fait, si vous prenez une certaine piste, et que ça soit reconnu par les autres, donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas totalement prévoir, vous êtes en incertitude, eh bien, il se peut qu'il y ait une réévaluation rétrospective ce que vous avez fait comme choix. Alors, le problème, c'est que la réévaluation rétrospective peut être vous avez des chances que ça soit négatif aussi bien que ça soit positif. Alors, vous me direz, mais il n'y a qu'à probabiliser cette affaire. Mais non, puisqu'on est justement en incertitude, on n'est pas capable de fixer des probabilités. En revanche, on peut, le critère que moi je proposerais, c'est d'avoir des choix de vie dans lesquels la possibilité de réévaluation affective soit toujours ouverte. C'est-à-dire que si vous vous engagez dans une vie dans laquelle vous bloquez, vous savez que le type de vie que vous allez mener va bloquer les possibilités de changer vos préférences et donc de réévaluer votre propre évaluation initiale, ben, c'est pas dans cette voie qu'il faut s'engager. Et ça, c'est plutôt, je dirais, c'est aussi bien un principe de politique collective que de choix de vie personnel. Alors là, pour répondre un peu à la question sur la confiance en soi et puis la confiance dans les autres, ben, vous coopérez avec vous-même dans le futur. La confiance en soi, c'est pouvoir, en fonction de la coopération avec soi-même dans le futur, réévaluer son propre passé. Donc les mécanismes sont un petit peu similaires. Je ne vais pas dire qu'ils sont les mêmes, parce qu'en fait, il y a évidemment des grosses différences. Il faut que je remonte, là. Comment est-ce que je fais ?
La flèche qui monte, là.
La flèche qui monte, là. Ah oui, voilà. C'est celle-là, d'accord. Bien. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut, avec ça, essayer d'expliquer, de rationaliser, enfin, de rendre raisonnable, dirons-nous, hein, je préférerais parler de raisonnable, la confiance, donc, situation dans laquelle, en incertitude, nous allons quand même coopérer. Alors, vous voyez qu'il y a... Là, je suppose que... Je vais envisager plusieurs situations, et dans l'une, c'est... Il y a un coordinateur, c'est-à-dire c'est une coopération dans laquelle on a élu, désigné quelqu'un pour mieux contrôler, donc je reviens sur le contrôle, hein, de la coordination. Alors, il y a évidemment d'autres situations, donc en gros, je vais en examiner quatre, c'est-à-dire la situation où il y a un coordinateur, la situation où il y en a plusieurs qui se co-organisent entre eux, la situation d'autogestion, hein, et puis la situation de confiance institutionnelle. Donc là, vous voyez que le coordinateur, une fois qu'il est élu, bah, il en a tiré de la reconnaissance, mais évidemment cette reconnaissance, elle ne marche pas si la coopération foire. Hein. Donc il a intérêt à engager les autres dans la coopération. Alors il a un moyen quand même qui est d'exclure, de désigner comme exclu des gens dont ils pensent qu'ils freinent la coopération. Alors ça, évidemment, c'est possible. Bon, là, dans les sociétés secrètes, on y va. Hein. c'est pas des sociétés uniquement de confiance complète. Et ça marche. Alors ça marche pourquoi ? Parce que, eh bien, si vous êtes exclu, évidemment, vous n'avez plus le premier niveau de reconnaissance. Donc vous ne pouvez plus... les sacrifices que vous avez faits éventuellement... pour coopérer, ils ne sont plus transformés en reconnaissance. Donc, vous n'avez pas intérêt à être... et du coup, un certain nombre de... Il y a quand même un processus auto-renforçant dans cette relation entre le coordinateur et les membres de la coordination qui fait que si ça... Comme c'est quand même risqué, c'est toujours en incertitude, si ça marche, alors ils réévaluent leur propre coordination comme étant une coopération qui... C'est ce que, on sait, tout le monde a été résistant quand la guerre s'est terminée. Donc c'est le fait de pouvoir réévaluer sa propre pratique en fonction de ce qui s'est passé. Alors, il y a un phénomène assez étrange qui s'explique, c'est que quelle serait la reconnaissance maximale du coordinateur ou de l'élu ? Ben, ça serait quand... c'était très incertain cette coopération, c'était vraiment très très risqué, et puis les effets de la coopération sont grandioses. Alors là, c'est, je sais pas, Bonaparte au pont d'Arcole, enfin, le type qui risque sa vie, et puis d'ailleurs, stratégie bizarre, hein, passer par un pont. D'ailleurs, il a refait le coup à Austerlitz en envoyant Murat. Hein. Vénère cette stratégie d'Austerlitz, mais ça reposait tout sur le fait qu'une cavalerie puisse passer par un tout petit pont. Ce qui était quand même très, très peu probable. Hein. Alors là, après coup, vous voyez là, la gloire d'Austerlitz qui arrive, mais en fonction justement de l'incertitude cette distance entre vraiment la faiblesse de la probabilité et l'incertitude totale même, en fait, et puis cette grande réussite. Alors, à part effectivement dans le domaine militaire, c'est extrêmement rare qu'un coordinateur puisse espérer obtenir le maximum, parce que vous voyez, ça voudrait dire que la coopération est très 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 risquée. Mais si elle est très 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 risquée, il y a quand même beaucoup moins de chances que les autres suivent. Ils auront peut-être intérêt à être exclus plutôt qu'à tout risquer. Donc c'est le problème des sectes. Là, pour rester dans mon coin, c'était les Vaudois qui ont été, je ne sais plus, il y en a eu 150 d'enfumés et liquidés dans une grotte. Alors, en revanche, il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable, c'est qu'une fois que les gens ont accepté de surmonter une certaine incertitude, eh bien, pour une coopération donnée, avec quelqu'un qui les coordonne, si ça commence à marcher à peu près, ça fait un effet de contagion. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se dire, bon, après tout, une autre incertitude pour une coopération qui est liée pragmatiquement, une sorte de réseau, si vous voulez, d'activité avec cette première coopération, alors là, on peut peut-être poursuivre. Hein. Et donc, c'est ce que j'appelle des coopérations latérales. Alors ça, tout le monde peut en tirer parti, c'est-à-dire à la fois les membres voient leur capacité de coordination s'étendre, et puis l'élu, évidemment, il en tire aussi des avantages. Et donc là, vous avez des effets de cousinage ou de népotisme liés au fait que celui qui est garant de la coopération l'a réussi dans un domaine, alors à ce moment-là, donc, il a droit à certains avantages qui sont liés aux coopérations d'autres personnes. Et donc là, j'ai dit trois régimes, mais en fait, il y en a quatre. Il me semble qu'il y a au moins trois ou quatre régimes. Donc, celui que j'ai regardé là jusqu'à présent, c'est une coordination dirigée, hein, c'est-à-dire qu'il y a un coordinateur élu. Et vous voyez que, c'est intéressant du côté de l'élu, bien sûr, parce qu'il a de la reconnaissance, mais aussi du côté de tout le monde à cause de cette extension des coopérations latérales, et aussi avec le fait que s'il y a un élu, s'il y a un leader, vous pouvez partager, les gens pensent qu'ils partagent la reconnaissance de l'élu. Alors pourquoi ? Parce que la réussite de la coopération ne peut pas tenir à l'élu tout seul, par définition. S'il suffisait d'avoir un chef comme Napoléon pour gagner des batailles, il n'y aurait pas besoin d'armée, hein, donc il n'y aurait pas besoin de bras, il n'y aurait pas besoin de tout ce qu'il y avait à côté. C'est clair, le soldat de la grande armée pensait qu'il était lui aussi, il partageait cette élection. Pourquoi il partageait cette élection ? Parce qu'il faisait aussi des sacrifices pour cette coopération risquée. Et donc, évidemment, vous pensez d'autant plus que vous partagez l'élection de l'élu que la coopération est risquée. Si c'est une... Alors, sur le PowerPoint, je vous avais indiqué qu'il y avait effectivement des coopérations de routine. Et donc là, j'introduirais deux notions, la notion de suspension et même la notion de double suspension. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une routine que l'incertitude est éliminée. Elle est simplement suspendue, où elle est même mise en double suspension. Alors, suspendue, ça veut dire que, pour l'instant, je vois que la routine pourrait être fragile, qu'il pourrait y avoir des obstacles, mais les obstacles, j'ai l'impression qu'on peut les contourner, donc je continue ma routine. Et la double suspension, c'est je ne m'aperçois même plus qu'il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire que je suis incapable de réactiver l'incertitude et les processus de révision et d'abandon de la coopération si ça ne marchait pas. Et donc, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pouvait bifurquer très rapidement d'une situation de coopération et de confiance à une situation de défiance, justement, et de soupçon. Alors, deuxième type, c'est quand il y a plusieurs coordinateurs qui peuvent être hiérarchiques ou en réseau, si vous voulez, dans une entreprise. Là, ça fonctionne vraiment par un réseau de coopération latérale et une partie de la confiance dans les institutions est de ce type. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a tellement de coopération en réseau que s'il y en a une qui défaille, les autres vont combler. Et que, tout le monde est, si vous voulez, par exemple, dans le système de la monnaie, tout le monde pense maintenant être au même niveau, finalement, de dépendance par rapport à la monnaie. C'est-à-dire, on ne pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des réserves d'or, ou des choses comme ça. Hein. Et on n'est pas très certain que, d'ailleurs, si on en fait, ou si on a des diamants, je ne sais pas quoi, ça sera bien meilleur dans le futur. Hein, ça sera. Donc c'est plutôt là la défiance de la défiance qui marche. Hein. C'est pas juste la confiance dans à l'azimut. Alors il faut pas oublier quand même le groupe autogéré qui effectivement peut être le cas dans une secte s'il n'y a pas un élu central, mais qui normalement c'est pas le cas dans les sectes. Il y a toujours un gourou. En tout cas, ça existe de temps en temps. Ça peut être des partis révolutionnaires, ça peut être des entreprises, des associations qui s'autogèrent, etc. Et alors, vous voyez que là, vous pouvez avoir des gens de la base du groupe qui, en fait, ont le type de reconnaissance sommitale. Parce que vous avez chacun pense que il est à la fois celui qui reçoit la décision et celui qui la propose. Il est à la fois élu sans l'avoir... Il est élu, quand on lui demande une tâche, c'est qu'il est élu. Mais il est élu sans l'avoir demandé. Et il choisit en même temps ceux qui l'élisent, puisqu'il choisit d'être dans ce groupe plutôt que d'en sortir. Donc vous avez, je pense que c'est l'attraction très forte que crée ce modèle, le modèle de l'autogestion, c'est ça. Alors le problème, évidemment, c'est que c'est pas très stable. C'est-à-dire que puisqu'il y a un phénomène de coopération intense, eh bien, vous pouvez très vite soupçonner les gens d'exploiter la coopération ou au contraire de vouloir exclure les uns et pas les autres, ou d'avoir des phénomènes de coalition. Alors, les problèmes de soupçon de coalition, vous les avez aussi dans le deuxième cas, hein, c'est-à-dire le réseau d'organisateurs. Alors, la confiance dans une institution, bon, au fond, c'est à la fois peut-être un quatrième type, mais finalement, ça reprend les précédents, hein, ça reprend des composants des précédents. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est que, évidemment, ça repose sur des comparaisons, une coopération en réseau, mais en plus, ça permet tous les niveaux de reconnaissance. Hein, c'est-à-dire que vous avez des gens qui pensent partager tout le monde, tous ceux qui appartiennent à l'institution partagent à la base la coopération propre à l'institution, personne ne veut en être exclu, hein, que ce soit une entreprise, un système monétaire, etc. Mais vous pouvez aussi être élu au premier sens, c'est-à-dire avoir demandé une promotion, je ne sais pas, à l'intérieur, ou une fonction supérieure à l'intérieur de l'institution. Vous pouvez être élu au second et au troisième et au quatrième. Alors, la confiance dans l'institution elle-même, me semble-t-il, se borne plutôt aux deux premiers régimes de reconnaissance, c'est-à-dire le partage horizontal, et puis, on fait les mêmes sacrifices, et on n'est pas exclu, et puis la demande d'élection dans le cadre de fonctions, c'est-à-dire, c'est vous qui l'avez demandé l'élection, c'est pas les autres qui vous l'ont donné. L'idée de... évidemment, dans le politique, vous voyez que vous avez plus qu'une institution, hein, puisque vous avez des phénomènes. Alors, il n'y a pas de politique qui fonctionne s'il n'y a pas des gens qui, à la fois, sont choisis sans l'avoir demandé et éventuellement choisissent ceux qui les choisissent. Et en fait, un chef de gouvernement, il fonctionne parce qu'il est capable de choisir ses collaborateurs qui, eux-mêmes, évidemment... sont des bons collaborateurs futés, c'est-à-dire le choisissent parce qu'ils pensent que ça va être intéressant. Donc il y a un auto-renforcement, si vous voulez, là, de l'évaluation. Alors, vous voyez, donc à ce moment-là, confiance et reconnaissance, dans pas mal de situations, s'auto-renforcent l'une l'autre. Et ceci par un phénomène, donc, le suivant, c'est que une fois qu'on a passé un certain seuil d'interaction, qu'on a surmonté une certaine incertitude, donc qu'on a fait un certain sacrifice, et là on retrouve la notion de seuil Nardine, eh bien, on peut arriver à soit stabiliser la reconnaissance sociale entre les membres du groupe qui participent, soit même la renforcer et lui donner à certains individus, et peut-être à tous, éventuellement dans le cadre du groupe d'autogestion, des possibilités de reconnaissance de niveau plus élevé. Alors vous me direz, mais oui, mais là vous supposez une motivation pour la reconnaissance. D'où elle sort cette motivation? Je pense qu'elle, ce qui entretient cette motivation, c'est précisément cette possibilité de réévaluation auto-renforçante. Il n'y a pas beaucoup, si vous voulez, de dimensions. Enfin, les intérêts, par exemple, vous voyez, ne sont pas, par définition, ils ne se réévaluent pas de manière auto-renforçante. Alors que la reconnaissance est une manière de reconstruire notre vie pour lui donner une certaine valeur, évidemment. Et ça, alors, si vous voulez, c'est pas qu'on a des préférences d'emblée, hein, c'est qu'on est en train de... On change nos préférences de telle manière que notre vie devienne plus préférée. Hein. C'est une sorte de préférence auto-adaptative, je dirais. Donc la reconnaissance nous permet ce genre d'auto-adaptation de nos préférences. Alors évidemment, avec quand même, nous avons toujours ce que j'ai dit sur la confiance, c'est une défiance de la défiance. Hein. C'est-à-dire, on se défie toujours, on est toujours en situation d'incertitude pour qu'il y ait confiance. Mais si on n'avait que du soupçon, on se dit qu'on raterait des coopérations, et donc on se défie de la défiance, et on va au-delà. Il faut que nous ayons le sentiment de faire ce sacrifice de la défiance pour que la confiance vaille comme reconnaissance sociale. Voilà.